toute personne qui débarque dans la plus belle ville du monde est tentée de prononcer quelques solennelles sottises. La tentation est encore plus forte quand on écrit à ce sujet. Mais ne pas consacrer un mot à la plus belle ville du monde serait une ineptie. Bref, me voilà bien dans l'entre-deux des choix stupides. Sur le chemin entre la gare et l'hôtel, la réalisatrice, une jeune Française pour qui ce voyage au Japon est une première, me dit « Je ne savais pas que Kyoto était une ville moderne. Je pensais que tout y était ancien. » Nous autres, Européens, ne savons pas que des villes comme Assise, pour ne citer qu'elle, sont des exceptions mondiales. Le temps s'y est bel et bien arrêté. C'est cela qui est un miracle. Le temps ne s'est arrêté ni à Bombay, ni à Xi'an, ni à Kyoto. En 2012, sur l'album Bangarang de Skrillex, prodige américain de 24 ans, est sortie une chanson intitulée Kyoto. De toute évidence, Skrillex a compris ce qu'est cette ville aujourd'hui. Sa musique est d'une violence inouïe. Si on tend l'oreille, on entend la splendeur des temples. Mais elle est insérée comme les bulles d'un temps autre dans la résine d'un tissu urbain délirant. Certes, Tokyo est 4 milliards de fois plus moderne que Kyoto, mais c'est sa vocation de capitale et elle la maîtrise. Kyoto donne une impression de schizophrénie. La juxtaposition des époques y crée d'énormes différences de potentiel sans qu'aucun échange entre elles ne paraisse possible. Imaginez une ville qui soit à la fois aussi mystique et sublime que pagane, aussi riche et bourgeoise que Bordeaux, aussi technologique et chaotique que Seattle. Pour autant qu'une telle mixture soit imaginable. C'est ce qui évoque le mieux Kyoto. La première fois que j'y suis allée, j'avais 4 ans. Mes parents avaient emmené leurs 3 enfants voir le pavillon d'or. Comme initiation à la beauté, ce n'était pas une demi-mesure. Sans doute est-ce pour cette raison qu'esthétiquement, j'ai tendance à placer la barre trop haut. On ne sait pas combien Kyoto est humide. À cause de cela, l'été y est aussi pénible que l'hiver. En 1989, quand j'y avais célébré le Nouvel An avec Nishio-san, j'avais découvert la torture de ce froid mouillé. Aux visiteurs, je recommande l'automne ou le printemps. Nous sommes le 31 mars et le 1er avril. Les cerisiers du Japon en sont à leur balbutiement. C'est un moment merveilleux pour renouer avec tant de magnificence. Le réalisateur s'en donne à cœur joie. Je lui sers de prétexte pour filmer des lieux célestes. J'essaie sans succès de lui suggérer que ma présence dans le cadre n'est pas indispensable. Yumeto, le jeune interprète tokyoïte, est aussi heureux que gêné d'être là. La majesté des temples le remplit de fierté, le ton méprisant des habitants le consterne. Quand il m'adresse la parole, j'ai l'impression que je dois leur demander pardon, me confie-t-il. J'ai des amis romains qui, à Florence, ont eu une impression comparable. Le soir, quand nous prenons le train pour Tokyo, nous sommes en overdose sensorielle. Nous ne sommes pas victimes du syndrome de Stendhal, mais de ce que l'on pourrait appeler le syndrome de Mishima. Si nous étions restés à Kyoto un jour de plus, nous aurions probablement incendié le pavillon d'or.